Commandant, bonjour micro. Donc, merci pour cette invitation. J'ai trouvé le sujet difficile à articuler. J'ai pris des supports pour essayer de le faire. Celui de la cantine, vous l'avez vu dans le titre, la famille Tortue. Merci à ceux qui m'ont témoigné que la sympathie que ça leur inspirait. Mais aussi Game of Thrones, hein. Voilà, les sympathiques tortues, il va falloir les empêcher de se transformer en dragons, c'est ça le projet. Commençons donc avec elles, les tortues, pour poser le problème de la ségrégation familiale depuis son départ. Le départ, c'est qu'il n'y a pas de modèle pour les êtres parlants pour faire la famille. Ou aussi bien qu'il n'y a que des modèles. Alors quand on rappelle dans la télévision, que la seconde utopique freudienne, qui pose que le refoulement est premier, implique que la famille, ça n'a pas grand-chose à voir avec les sociétés animales, puisque l'inconscient existe, on connaît la citation. Alors il faut l'inventer, la famille, l'édifier, il dit. Et évidemment, le modèle qui nous vient naturellement, entre guillemets, c'est justement l'animal. D'où le recours au continu, je crois, rempli d'animaux, pour bien séparer les tortues des rats, et signifiant neutre au départ. Mais rapidement, c'est nous et eux. Comment ça marche, une famille? La chanson le dit. Le papa tortue, la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. On l'a fait, la famille, comme on la pense, comme on pense, avec des mots, des petits pas. Et on y croit comme Achille derrière sa tortue à lui. Voilà comment on se retrouve à marcher au pas, en tout cas. Surtout, tous du même, pour bien serrer les rangs, se sentir bien ensemble. Et puis surtout, bien différents des autres. Les rats, ceux-là, qui courent partout, font n'importe quoi, c'est déjà moins sympathique. Mais c'est difficile à éviter. Peut-être que la cantine aide, là aussi. Ouais. Parce que la suite, vous la connaissez peut-être, consiste à enlever les mots. Ça indique bien le réel de l'affaire. L'absence de rapport entre les et les ps-ps. Bon. Elle est parfaite, il me semble, cette cantine. Pour ça, rappelez pour finir qu'au départ, on s'en amuse. On en joue un peu, beaucoup, c'est la question. Le problème général que pose cette logique de ségrégation, on peut le désigner, je crois, quand il concerne spécifiquement la famille, du terme de spécisme. C'est son actualité montante, racisme montant, depuis les années 70, qui se nomme antispécisme, sur le modèle d'un antiracisme. Vous allez voir, ça n'est pas un fameux antidote. L'antispécisme regroupe des activistes de la cause animale et des intellectuels qui refusent la domination de l'espèce humaine. Jusqu'à mettre en question, ça arrive toujours, c'est ce qui est fâcheux, la différence entre les espèces. Le vif de l'actualité des débats se situe alors entre les positions, pour donner une idée rapide, entre Michel Onfray, qui se dit tout à fait intéressé, et Alain Finkielkraut, tout à fait inquiet. On est bien en plein dans notre thème. Je vous fais remarquer que si vous tapez antispécisme sur Google, vous trouverez dans les premières occurrences un numéro de famille chrétienne consacré à leur vive crainte à propos de ce qu'ils considèrent en basse de devenir l'idéologie dominante du XXIe siècle. Il faut aller lire ça, les cahiers antispécistes, c'est leur revue en ligne, pour se faire une idée de la gravité du décrochage. C'est assez délirant. Mais voilà, ici, dans mon point, à ce point de mon texte, c'est ce que j'essaie de penser, quelque chose s'est produit comme un décrochage aussi. La sensation de hors-sujet me fait signe que ça n'allait pas. J'étais tenté peut-être de m'indigner moi aussi devant cette gravité. Quoi qu'il en soit, être attentif à ce sentiment de malaise en soi, au moment même où on croit pouvoir le désigner, le malaise, là dehors, dans les effets du jeu des répressions, c'est ce qui doit permettre, je crois, l'heureuse bascule, comme la nomme Lacan pour qualifier la seconde épiphrodienne. La famille et ses répressions, il insiste, sont des effets du refoulement, en aucun cas leur cause. Le refoulement est premier. C'est la vanité du langage qui nous porte toujours à l'oublier. Croire pouvoir désigner, là, dehors, la chose, le problème. C'est, je crois, ce que Marie-Josée Latour s'amuse à appeler le doigt qui montre cela. Marie-Josée qui disait, serait d'accord, je crois, Oui, serait d'accord, je crois, pour dire aussi que montrer du doigt, ce n'est pas bon. Elle rappelait d'ailleurs récemment à Toulouse que notre problème difficile, c'est de sortir des ismes, quels qu'ils soient. Alors comment s'y prendre? C'est ça la question sérieuse. Je repensais d'abord à Patrick Boucheron dans sa magnifique leçon inaugurée au Collège de France. Cet immense texte, ce que veut l'histoire, ce que peut l'histoire. Pardon. Peu de temps après les attentats de Paris 2015, il reprenait alors Victor Hugo. Étonné la catastrophe, ou avec Walter Benjamin, se mettre à corps perdu en travers de cette catastrophe à venir qui est de continuation davantage que de soudaine rupture. Je vous dis un peu plus largement le texte de Victor Hugo. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps avec le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin. Bon, quand même, c'est quand même. Il y en a un dans Game of Thrones qui tient bon, qui tient tête, c'est Jon Snow, le bâtard de la famille Stark. Il est d'après moi une magnifique figure d'analyseur. C'est ce que je propose. À qui sa maîtresse rappelle à chacune de ses tentatives d'approche, tu ne sais rien, Jon Snow. Voilà, je me disais en m'étonnant de le découvrir, parce que ça m'a quand même étonné, voilà qui encourage à sortir radicalement des ségrégations choisies et à trouver quelques autres avec qui penser le commun de l'expérience. Avec Giorgio Agamben, et le projet qu'il porte dans la communauté qui vient, et donc avec R.R. Martin, l'auteur de cet amusement sérieux, ce roman d'Heroic Fantasy, Le Trône de Fer. Tentez donc avec eux de formuler un dénouement correct au jeu des trônes. Bon, je vais parler de Game of Thrones.
Pardon ?
Je vais vous parler donc de mettre le Game of Thrones. Mon accroche à cette histoire au départ s'est faite par l'articulation, c'est le principal enjeu narratif de deux problèmes, deux types de livres. J'espère que je vais réussir à vous faire entendre comment ça résonne. Je vais essayer, en vous disant juste le contenu, je suis bien obligé d'en passer par là. Le premier mur est massif et monumental. Il a été édifié aux confins du monde des humains, à sa limite même, pour maintenir séparés les hommes des créatures qui arrivent depuis plusieurs hivers à son abord. Ces créatures, ainsi envoyées par les autres, grand A, c'est écrit comme ça, sont un motif classique de levée du refoulement, des cadavres ambulants. On les appelle les marcheurs blancs, ils ne sont longtemps qu'une rumeur. Mais qu'ils ne marchent pas, c'est précisément ce que devrait garantir le refoulement. Que la jouissance ait définitivement déserté leur corps. Manifestement, ce n'est pas le cas. Ce mur-là menace de ne plus faire son office de séparation avec l'autre. Celui qui est pour de bon d'une autre race, dit Lacan. Ce mur-là finira d'ailleurs par s'ébrécher au cours du récit. Les autres murs sont invisibles. Mais solides, ce sont ceux des maisons. C'est comme ça qu'on appelle les familles dans Game of Thrones. La ségrégation familiale. Sur ce versant du récit, c'est le père, modèle traditionnel de ségrégation, qui va disparaître tout de suite, brutalement, et laisser le trône terriblement vacant. Je vous raconte le plus rapidement possible l'intrigue, c'est pas intéressant tellement en soi, mais on ne peut pas faire autrement pour entendre le dénouement. Le roi Baratheon appelle. Je vais tout dévulgâcher. Ouais.
Spoiler.
On peut dire spoiler, c'est un terme français au départ. Le roi Baratheon appelle près de lui au début de l'histoire à son ami Ned Stark. C'est de là en tout du brave homme, bon père de famille et mari fidèle. Ils ont tout du modèle traditionnel. Robert a installé sa famille sur le trône de fer et réussi à unifier les sept couronnes, ségrégées, par un mariage de raison. C'est le problème. La faute du désir qui devrait faire la loi, faute qui sera lourde de conséquences. Il a pris pour épouse la fille d'un grand chef de guerre et argentier du royaume, Cersei Lannister. Il n'aime pas, il ne l'aime pas, ni de la désirer. Les Lannister ne sont pas de braves gens, eux, mais des banquiers, qui ont tout du problème qui nous préoccupe actuellement. Ils sont absolument conséquentialistes et ils ne jurent pour tenir ensemble que par le sang. Et ils vont se déchaîner. On reste entre nous chez les Lannister, pas d'autre valeur pour tenir ensemble que la peur et la pureté de la lignée, jusqu'à l'inceste. Ainsi Cersei, la reine, et Jaime, son frère, sont en secret amants. Ignorant cette liaison, c'est le fruit de cet inceste que le roi Robert croit être son fils, à tort donc son légitime successeur. Et c'est la découverte par son ami de cette atteinte à la légitimité de sa succession qui fait brutalement décompenser la situation et détruire définitivement le modèle traditionnel de ségrégation par le père. J'arrête pour l'histoire. Et le spectateur reste médusé à la fin de la première saison, qui laisse supposer pire pour la suite. Les deux amis Baratheon et Stark sont assassinés par les Lannister. Les orphelins de Ned Stark prennent la fuite et les spectateurs porteront jusqu'au dénouement l'absence de ses figures paternelles et la violence, certains ont parlé de traumatisme, de leur disparition. Aucun personnage de ce modèle, de ce charisme de patriarche, ne sera plus présent jusqu'à la fin et le trône reste vacant. Dans la compétition des modèles ségrégatifs qui s'ensuit, le cerf des Baratheon, par exemple, sans commune mesure avec le dragon Targaryen. Et la violence qui se déchaîne et devient omniprésente. Sauf que tel est l'objet même dont R.R. Martin veut nous avertir comme spectateur. C'est très sensible à plusieurs reprises, mais il faudra attendre le dénouement pour en avoir une preuve définitive. Mathieu Ponte-Bonneville note que la violence qui intervient... Non, pardon, excusez-moi. La violence qui entretient un lien étroit avec la question de l'irréversible et des conséquences. Ce qui intéresse Martine, c'est en effet que les conséquences, les actes politiques changent la donne. Et qu'on doit en éponger, subir les conséquences très longtemps. Les hommes se situent toujours dans l'après-coup douloureux de décisions politiques. Cette affirmation dans Goethe de l'irréversible comme tel, je l'entends comme la primauté du refoulement. C'est ce que nous prouve son dénouement. C'est donc ce qui m'a décidé à vous en parler. Les auteurs ont choisi pour mettre fin à ces 7 saisons de gourmandise d'installer sur le trône un fils Stark, Brandon, devenu adulte et handicapé. Témoin par hasard de l'inceste de Lannister au début. Il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat par Jaime au tout début de l'histoire. C'est à ce titre même qu'on lui propose le trône en tant que corps témoignant, cicatrice exposée, Eidos de l'irréparable, dirait Adam Bailly. Son nom en sera la marque. Il est acclamé comme le roi Bran dit le rompu et il n'engendrera aucune dynastie. Après lui, les rois seront choisis pour leurs qualités propres et non pour celle de leur père. Tout restera tel quel, irréparablement. Et telle sera précisément sa nouveauté, dit Adam Bailly. Voilà donc le tour à jouer au récit, pour le dénouement. Et le dénouement arrive par Jon Snow, qui est une autre figure de l'irréparable, en tant que lui, bâtard de Ned Stark. C'est un acte décisif, où tue Daenerys, la reine des dragons idéaliste, qui fascinait tant les spectateurs. Mais terme à cette fascination. Mais en 6 saisons de lente évolution de la catastrophe, de la chatouille incestueuse du départ, voici arriver à la grillade. Daenerys sur son dragon brûle tout. Dans cet ultime, unique et décisif acte, Jon Snow accepte de tout perdre. Son amour pour elle, bien sûr, Daenerys, mais également la famille qu'il retrouve à peine avec elle. Je vais passer le détail de l'histoire. Et enfin, toute possibilité d'accéder au trône, puisqu'il commet dans le même geste un régicide. Il est aussi celui qui ne s'est jamais trompé de mur. Il a toujours été focalisé sur et défendu le premier mur, le vrai, celui de la séparation d'avec l'autre. Essayant sans cesse d'exhorter les familles à dépasser leurs illusions ségrégatives. Tyrion, alors à qui il demande si le mur existe toujours, lui répond « Il y aura toujours un foyer pour les bâtards et les hommes brisés. » Il évoque la garde de nuit, c'est la communauté qui garde le mur. Et elle est en effet constituée de rebuts de la ségrégation familiale, de criminels, sans famille, ou simplement rejetés par elle, et autres nobles bâtards comme John. Ils tiennent ensemble par le serment de fraternité de protéger le mur et de renoncer à faire famille. Jon Snow retourne alors au mur. Bon. Voilà ce qui m'a intéressé. Pardon pour un côté un peu long de ce que je vous ai raconté. La toute dernière image de la saga est celle-ci. Jon Snow, alors qu'il escorte le peuple libre s'établir dehors, de l'autre côté du mur, se retourne et regarde alors la porte, le passage du mur. Et il a une expression de franche satisfaction. Pour terminer, je vais laisser résonner cette image finale de Galt avec un extrait de la communauté qui vient dans le chapitre intitulé « Dehors ». Je cite à Grandelle. « Essentiel est ici le fait que la notion de dehors soit exprimée dans de nombreuses langues européennes par un mot qui signifie « à la porte ».« Forest » est en latin « la porte de la maison ».« Tiraton » en grec signifie littéralement « au seuil ». Le or n'est pas un autre espace situé au-delà d'un espace déterminé, mais il est le passage, l'extériorité qui lui donne accès. En un mot, son visage, son eidos. Le seuil, en ce sens, n'est pas autre chose que la limite. C'est pour ainsi dire l'expérience de la limite même, de l'être dans un dehors. Voilà qui fait entendre, je crois, un heureux déplacement de la question de la ségrégation des murs de la maison vers celle de l'habitation de ce seuil, du passage même. Alors Tyrion qui affirme « There's always been a home, un foyer for the bastards and broken men », c'est en connaissance de cause qu'il affirme, lui, que cette ségrégation familiale tenait pour le gnome, et qu'il disait à Jon qu'un nain est toujours un bâtard aux yeux de son père, un rebut de la ségrégation. Alors installer le rompu sur le trône, il devrait dire sur la modification du rapport au savoir de ce personnage. Réunir des bâtards et des rebuts dans ce foyer conçu comme seuil, passage, voilà une solution proposée dans le contenu. Voilà la solution proposée dans le contenu de celui-ci. Bien sûr, c'est intéressant, ça fait toujours plaisir de le découvrir et de s'en étonner. Mais ça n'est pas très sérieux au fond. Et ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Ce qui l'est plus, sans doute, c'est cet étonnement lui-même. En rapport avec ma certitude de départ, de ne pouvoir assister avec Galt qu'à une énième niaiserie TV au service de la catastrophe à venir. Donc un post-scriptum, pour ne pas dire conclure. C'est un point de méthode auquel nous sommes rompus. Quand on veut connaître un objet, il faut savoir comment il est fabriqué, puisque nous habitons un monde de ready-made. Pour les signifiants, c'est l'étymologie. Et l'étymologie de bâtard, comme on peut s'y attendre, sépare deux occurrences. La première, c'est la stricte définition de la chose. Elle renvoie au dehors, le hors-institution du mariage. Ainsi, elle n'est d'aucun support pour notre problème, plutôt ferait-elle consister la dite institution, selon la logique survenue de la ségrégation. Mais la seconde, elle, renvoie au strict usage du terme. Le bâtard, c'est le mélange lui-même, c'est-à-dire une figure de l'impur. Nul doute, je me disais, dans notre contexte politique actuel, que cette figure-là du déchet, cette impureté, cette bâtardise, que c'est elle qu'il nous faut défendre contre une, comme une condition réellement enviable, radicalement à contre-pente, donc, de la tentation d'en faire une insulte. La tentation d'en faire une insulte.